commencer. Bon. Alors, je vous ai parlé la semaine dernière d'une nouvelle économie. Et nous allons cette fois-ci, et puis au mois de juin, nous continuerons ce cours d'aujourd'hui au mois de juin, au cours des 4 séances qui sont prévues pour ça. Troisième leçon du séminaire de Saint-Paul. Nous arrivons à un point où il y a véritablement la plus grande difficulté dans la lecture de ce séminaire. Alors, je vous rappelle les circonstances. C'est que il y a une première leçon. J'ai parlé la dernière fois du nœud de Lacan, qui est présenté 4 fois sous des présentations différentes dans la première leçon. Mais la première leçon du symptôme, c'est une reprise de la dernière leçon de RSI. Et où Lacan apporte, en plus de ce qu'il disait déjà dans RSI, à la dernière leçon, à l'occasion de la dernière leçon, il parle de la chaîne à 4, après avoir mis au tableau les nœuds de Lacan, sans rien dire de ces nœuds. Et c'est ce que nous avons trouvé aujourd'hui. Nous avons trouvé l'intérêt que nous pouvons porter à ces nœuds que Lacan met au tableau dès le début, et dont il ne dit rien. Et dans cette première leçon, ensuite, il va parler de ce qui est le principe du nœud, et ce qu'il va appeler plus loin dans le séminaire le faux trou, donc dans la liste des objets que j'ai répertoriés. Vous avez dans la première leçon la répartition des objets dans les leçons. Il y a le nœud de Lacan qui est le premier objet, il y a la chaîne à 4, et puis les questions du nord et du faux trou. Le faux trou, Lacan en parlera dans la leçon 6, 8 et 10 également. Et c'est dans la leçon 8 qu'il y a les pages paradigmatiques sur le faux trou. Donc le faux trou, moi j'ai consacré un livre à cette question du faux trou, c'est le premier de mes fascicules de résultats en topologie, qui s'appelle S1. C'est quelque chose qui est épuisé chez l'éditeur, et dont on peut se procurer une photocopie en me contactant, parce qu'on peut faire des photocopies de ça. Que je peux vous procurer au prix de la photocopie, quoi. C'est-à-dire que c'est pas très onéreux. Mais ce livre est actuellement épuisé et je ne sais pas si on le trouve beaucoup dans les bibliothèques parce qu'on le cite assez peu. Il s'appelle S1. Bon. C'est le nom de la revue de psychanalyse qui existe maintenant. Hein. Mais il se trouve que ils m'ont demandé si je ne voyais pas l'inconvénient à ce qu'ils appellent leur revue S1. Il est bien évident que moi, j'ai aucun droit et aucune propriété sur ce terme. Et donc, c'est un mot de Lacan qui se trouve dans le séminaire encore. Il parle de l'S1 signifiant. Il dit que si vous voulez savoir ce que c'est que l'un signifiant, posez-vous la question de savoir ce que c'est que le signifiant 1. Et il explique que c'est un S1 signifiant. Alors, j'explique ça dans un petit livre qui est un hommage à Souris, et ça correspond exactement à ce que dit Lacan dans ce séminaire sur le faux trou. Bon, donc j'ai consacré au printemps l'année dernière, au mois de juin, j'ai consacré quelques leçons, 2 leçons à ce faux trou, quand on était dans les locaux de du FIAP. Et c'est une chose que je pourrais reprendre par la suite, mais disons que je ne vais pas m'attarder pour l'instant là-dessus. Parce que j'ai commencé, comme je vous l'ai dit, à vous présenter sur le tableau qui est dans l'autre amphi, l'essentiel de la stratégie qui me semble ressortir des conférences et des séminaires de Lacan dans les années qui précèdent, puisque ça commence à apparaître dans la troisième, là, le troisième discours que Lacan fait à Rome. Les figures qui sont dans la troisième, on les retrouve dans cette deuxième leçon. Et puis, un certain nombre d'indications de Lacan qu'il faut faire même remonter jusqu'à l'année 67 pour certaines, puisque c'est dans la proposition de 67 que Lacan dit que si on retire l'Œdipe du discours de Freud, le discours de Freud est susceptible d'être un délire et susceptible de présenter la structure du délire du président Schreder. Bon, ce qui me fait parler, comme Lacan le dit dans le séminaire RSI, ce qui me fait parler avec le symptôme, le quatrième rond de la chaîne A4, le fait que Freud, avec ce quatrième rond que Lacan appelle symptôme, réalité psychique, Œdipe, donc vous voyez le mot Œdipe est là, si on retire cet Œdipe, la chaîne se défait, si on met ce quatrième rond, la chaîne tient. Et comme on va le voir aujourd'hui, on va croiser ça un moment, Lacan a une expression, c'est l'idée qu'il s'agit d'une chaîne à trois avec le quatrième. L'expression exacte de Lacan, je vais vous le dire, il parle d'une chaîne. Il dit le nœud à trois noué boromènement à quatre. Il dit ça dans la version de Lali, c'est page 52, dans la version que j'ai. C'est dans le chapitre 3. C'est une expression qu'il faut retenir parce qu'elle correspond à ce que disait Lacan dans RSI. Dans RSI, il parlait du quatrième rond comme explicite, alors que le quatrième rond qui tient les trois ronds, dans le nœud à trois, borroméen, c'est-à-dire dans la chaîne borroméenne à trois ronds, le quatrième est implicite. C'est comme ça qu'il s'exprime dans RSI. Et là, dans le symptôme, il dit le nœud à trois noué borroméennement à quatre. Donc, les trois sont libres, mais si on coupe un des trois dans la chaîne à quatre, ils sont vraiment libres. Ils sont libres au sens où ils ne sont pas enlacés, ils ne sont pas noués, ils ne sont pas enchaînés entre eux. Les trois, ils sont libres, mais ils sont tenus par le quatrième. Alors que dans la chaîne à trois, ils sont tenus entre eux. Et là, le quatrième, il est implicite, puisque c'est le nœud lui-même qui tient les trois. Donc c'est cette affaire entre 3 et 4 qui fait que dans la chaîne borroméenne à 4, si on retire 1, les 3 sont libres. Et bien dans la chaîne à 4, les 3 sont noués borroméennement par le quatrième à 4. Ils sont noués à 4. Bon. Donc on va voir que là, c'est supposé, dans ce que je vous ai dit du chapitre 2, et de cette chaîne à 4. Alors la chaîne à 4, vous voyez, c'est l'objet qui se trouve dans la leçon 1, et vous la retrouvez tout de suite dans la leçon 1 à la fin, là, quand il va parler du faux trou. Vous la retrouvez tout de suite dans la leçon 4, au début, cette chaîne à 4. Ensuite, il va parler, il ne va rien dire de ce qu'il montre comme quatrième, parce qu'il est très embêté. Et la circonstance que crée Lacan, c'est qu'il y a un débat avec le public à la fin de cette deuxième leçon, et là, il parle d'une petite découverte qu'il a faite, et de quelque chose qu'il sait, qui existe, c'est qu'on peut faire une chaîne borroméenne de trois neutres. Donc au lieu de nouer borroméennement trois ronds, c'est-à-dire des nœuds triviaux, des nœuds qui ne sont pas des nœuds qui sont une absence de nœuds, il s'interroge sur le nœud borroméen, c'est-à-dire la chaîne borroméenne que l'on peut faire de trois trèfles, et il dit que ça, il l'a fait. Et c'est un fait que Souris, ça se trouve dans les dessins publiés par Souris, et c'est quelque chose qui n'est pas excessivement difficile à faire, parce que à trois, il suffit d'alterner les trois ronds pour que la chaîne soit borroméenne. Ça veut dire qu'il y a un rond qui passe toujours au-dessus d'un des autres ronds, même si ce rond est noué en trèfle, peu importe, et en dessous de l'autre rond qui lui aussi est noué en trèfle. Donc vous voyez, par exemple, voilà trois trèfles. Je ne sais pas si vous voyez que j'ai mis des cercles, c'est pour pouvoir faire la symétrie pour que la figure ait une bonne disposition. J'ai mis un faisceau de cercles concentriques, mais c'est sur ces cercles que j'ai placé les croisements, et j'ai reproduit ici le nœud borroméen de trois trèfles dont parle Lacan dans la fin, dans les questions qu'il pose et qu'on lui pose à la fin de la leçon 2. Et voilà le même sans les couleurs. Ça, c'est ces trois trèfles qui sont noués. Alors, c'est peut-être pas évident. Quand c'est en noir et blanc, c'est moins évident à voir. Hein, ça peut vous poser quelques petites difficultés. Bon, je vais reprendre. J'en ai une autre version en couleur encore. Bon, mais voilà une petite version en couleur. Je vais les faire passer parmi vous. Vous voudrez bien me les rendre, mais on trouve ça chez Souris, hein. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Je regarde si j'ai pas une grande version. Non. J'ai pas une version en couleur de la taille de l'autre. Voilà. Voilà trois exemplaires de trois nœuds trèfles noués borroméennement. Voilà trois exemplaires. Bon. Donc, le premier en haut est le plus symétrique et correspond à celui-là. Alors, je vais faire passer ça par les deux extrémités. Vous faites passer à vos voisins qui sont derrière vous après. Voilà. Bon. Enfin, tout ça, c'est pour vous dire que cette solution dont parle Lacan et qu'il a trouvée pendant l'été, qui dit qu'il sait faire ça, que ça marche bien, vous voyez, vous pouvez le voir. J'ai eu aucune difficulté. C'est juste la seule difficulté, c'est une difficulté graphique. Il faut partir du centre et puis il faut progresser lentement vers la périphérie, parce que si vous partez de la périphérie, vous allez vers le centre, vous allez vous retrouver coincé par le manque d'espace et tout ça va se mélanger. Donc il faut être un peu méthodique, disons, d'un point de vue graphique, mais il n'y a pas de difficulté majeure. Par contre, Lacan pose la question à la cantonade. Est-ce qu'on peut faire une chaîne borroméenne de quatre nœuds trèfles? Et la question, eh bien, elle est beaucoup plus difficile à résoudre. Vous voyez. Alors là, j'ai par exemple une chaîne de quatre nœuds trèfles qui sont alternés selon le même principe qui m'a permis de faire la chaîne à trois. Mais ici, justement, c'est pas borroméen. C'est-à-dire qu'il y a des sous-chaînes. Il y a des sous-chaînes qui sont elle-même borroméenne à 3. Donc ça, c'est pas une solution comme celle de Souris et Thomé. Donc voilà un 4 qui ne marche pas. Et le 4 qui marche, et ben vous l'avez au début de la leçon 3. C'est cette fameuse tresse qui est là, qui a été reproduite à l'identique dans le symptôme au seuil. Hein. Et ici, dans cette version, dans la version que j'ai, la première version de la liste, ça a été corrigé depuis. Et c'est corrigé dans la version du seuil. Vous avez, il y a une erreur ici en bas, il y a un croisement qui est erroné en bas ici, entre le bleu et le noir, et ça a été corrigé dans la deuxième édition de l'ALI. Et c'est corrigé dans l'édition du seuil. Bon. Voilà. Donc voilà où nous en sommes, si vous voulez. Nous en sommes à un point où Lacan a fait deux leçons. Une première leçon qui présente le nœud de Lacan, et puis qui est une leçon consacrée à prolonger la dernière leçon du séminaire de l'année précédente. Et puis une deuxième leçon où il esquisse, il essaye de mettre au tableau, en reprenant une leçon, une question qu'il avait posée au début du séminaire RSI, hein, en disant cette chose toujours la même, c'est... le nœud borroméen, vous voyez comment est le nœud borroméen, dit-il, il est comme ça, le nœud borroméen. Voilà un nœud borroméen. Bon, eh bien, pourquoi ceci ne serait pas un nœud borroméen? Ça, c'est son introduction à Joyce. Pourquoi ceci ne serait pas aussi un nœud borroméen? Ça dessine, ou ça écrit. Si ça ne dessine pas, peut-être que maintenant, il faudrait faire la différence, justement, entre le dessin et la représentation par un dessin. une chaîne borromienne qui est ici dessinée, et voir que ça, c'est nous introduit à la notion de l'écrit. C'est-à-dire que c'est un nœud borroméen qui est écrit, parce que si on sait lire ce qui est absent, ce qui n'est pas écrit, c'est aussi bien un nœud borroméen. Qu'est-ce qui n'est pas écrit ? C'est le croisement des deux droites infinies qui a lieu à l'infini. Le croisement des deux droites infinies, c'est un croisement qu'on peut supposer à l'infini, et le problème est de savoir que ce croisement, ben, il ne faut pas le rater. C'est pour ça que dans RSI, quand Lacan en parle, il en parle cinq fois, il y a à chaque fois ici des argues, c'est l'idée de la géométrie projective de des argues. Les droites infinies sont des cercles chez des argues, une droite infinie, c'est quelque chose qui va se compactifier avec un point infini, qu'on peut appeler oméga comme ça. Et il suffit d'un point pour qu'un espace localement compact devienne compact. Bon. Alors c'est pour ça qu'il parle de la droite infinie dans la leçon 2. Et à la fin de la leçon 2, il pose cette question, il pose cette question à propos de la chaîne à 4 de 4 nœuds trèfles. C'est là que les choses, je dirais, voilà, ma proposition c'est de lire dans ce séminaire de Lacan le fait suivant, c'est que Lacan est très embêté par ce qu'il fait avec Joyce et Freud, ce qu'il essaye d'expliquer à son séminaire, parce que il a d'un côté Souris, Thomé qui lui disent des choses, et puis de l'autre côté, et il s'intéresse et qui travaille en parlant entre eux, ils produisent de la topologie. La preuve, c'est que quand Lacan pose la question d'une chaîne borroméenne de quatre trèfles, et ben pof, entre les deux séminaires, en quelques jours, ils amènent la solution à Lacan. Donc il y a Souris et Thomé qui travaillent d'un côté, puis il y a une foule du séminaire et à qui ils voudraient expliquer quelque chose, mais on n'y comprend vraiment rien si on s'y met pas, quoi. C'est vraiment un des points communs là, auxquels on arrive de la psychanalyse avec la mathématique. C'est que quand vous lisez des mathématiques, ben vous ne lisez pas les mathématiques comme si c'était de la littérature romanesque, quoi. Quand vous lisez des mathématiques, vous vous arrêtez, puis vous vous dites, tiens, mais ça, on me dit ça. Vous ne comprenez pas du premier coup tout ce qu'on vous raconte. Hein, c'est exactement ça la question du sujet de la science, du sujet de Descartes. Si le monde est rationnel et que je suis rationnel, je devrais tout comprendre s'il n'y avait pas de sujet. C'est le rêve des psychotiques, ça. C'est le rêve aujourd'hui qu'on voudrait nous faire adopter même comme idéal, de supprimer la parole, le sujet, enfin que l'on soit transformé en machine. La seule solution qu'on a trouvée, c'est supprimer le langage, supprimer la parole, supprimer le sexe, supprimer tout. Comme ça, au moins, on n'aura plus que des organismes et des machines, et puis il n'y aura plus de sujet. Donc là, c'est sûr, on comprendra tout. C'est ce qu'on appelle la culture digeste. Voyez, c'est-à-dire que c'est le drame de nos étudiants qui sont confrontés au fait d'avoir la plus grosse bibliothèque, la plus grosse banque de données et d'archives que jamais personne n'a pu disposer d'un outil pareil. Mais le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Comment lire? Comment trier? Comment on, et en plus, on est nécessairement sujet à un moment donné. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout lire ou lire toujours comme ça, comme on lit, je vous dis, une nouvelle ou un roman. On n'est pas obligé de rentrer dans l'écriture et de se trouver transplanté tout à coup. Cette capacité que le sujet a, ce qui n'est absolument pas fou, c'est quand même assez génial de la part de Freud, de s'être rendu compte que sans doute ce qu'on appelait les maladies mentales, ou les maladies nerveuses, les névroses, les psychonévroses, c'était quelque chose qui n'était pas tellement différent du fait que vous prenez quelqu'un et il est installé dans son fauteuil, là, comme ça, à Paris, il est en train de lire le Double de Dostoïevski, ben, il est en train de patauger dans la boue, hein, et manger des harengs, il fait froid, et puis tout à coup le téléphone sonne, et ben, il pose son livre, il répond au téléphone, ou quelqu'un vient le déranger. Il ne faut pas être dérangé quand on lit, il faut fermer la porte à clé, si on veut vraiment rentrer dans la littérature. Bon, mais sinon, c'est dès qu'on est dérangé, ben on arrête quand même. Donc il y a quelque chose, il y a un panneau qui tourne comme ça. Et on n'est pas forcément fou parce qu'on est sujet de cette fiction littéraire. Et la fiction mathématique, elle exige quelque chose de plus. C'est qu'en plus, on ne s'identifie pas beaucoup plus difficilement. Il faut aussi s'identifier. Il y a aussi un problème là d'arriver à devenir sujet de ce texte-là. Mais là, il faut prendre son crayon, son papier, puis refaire un certain nombre de gestes qui font que c'est exactement la même chose que la psychanalyse. C'est-à-dire que la psychanalyse, c'est pas une connivence. Lacan pose la question de savoir si c'est une escroquerie ou pas. Bon, ça peut être une escroquerie, parce que ça ressemble beaucoup à ça. On a l'impression que c'est une connivence, comme ça, de mecs allumés en... Vous voyez, comme les dames de la vie claire là, qui vous vendent dans les vacances. Si vous allez dans le midi en vacances, vous avez des dames qui viennent vous proposer, elles vous expliquent que c'est un journal merveilleux parce qu'elles ont une expérience, une révélation, quoi. Puis elles vous en parlent pendant des heures. Et elles ne sont pas forcément folles. Non, elles sont folles si elles s'y croient. Le fait de s'y croire, c'est ça la folie. Mais le fait d'avoir une expérience, une révélation, ou d'avoir comme ça, c'est aussi ce sentiment comme ça du bien moral en soi, comme disait Kant, cette merveille qui est de retrouver en soi la loi morale et dans le ciel l'ordre des planètes. Écoutez, c'est des choses dogmatiques justement, et c'est dogmatique parce que c'est silencieux, parce qu'on ne peut pas le dire, parce que à ces endroits-là, il n'y a qu'à se taire. Bon. Et les mathématiques ont aussi cette qualité d'être dogmatiques, mais c'est un endroit où on peut refaire les gestes nécessaires qui vont conduire à ce que ce ne soit pas une connivence. Et dans l'analyse, l'analyse n'est absolument pas mathématique, et ni dogmatique, mais ce qui est dogmatique dans l'analyse, ce qui est mathématique, c'est le fantasme. C'est la structure de cette phrase qui module, qui est déclinée pour donner les symptômes. Et que le sujet, il a l'intuition de cette phrase, mais il essaye de l'écrire, c'est ça qui est très énigmatique. Depuis le trauma, il est rentré dans le langage, il y a des choses qui pour lui sont inscriptibles. Il est exactement dans la même situation que le mathématicien, quand on lui parle d'un problème de géométrie ou d'arithmétique, il dit « ça doit pouvoir s'écrire, ça doit pouvoir s'expliquer par le fait de l'écrire bien, et de bien voir justement en quoi mon intuition peut me tromper, comme disait Poincaré, comment mon intuition peut-elle me tromper à ce point ?» C'est ce que me disait Lacan un jour, quand il m'avait demandé de lui expliquer comment les hyperboles, d'une manière continue, pouvaient passer de l'ellipse à l'hyperbole, justement, les coniques, comment un plan qui pivote par rapport à un cône, hein, vous avez un cercle, vous avez des ellipses, et puis à un moment donné, ensuite, vous allez avoir une hyperbole, avec deux branches hyperboliques disjointes. C'est une sorte d'ellipse, hein, l'hyperbole, c'est une sorte d'ellipse qui est coupée en deux, vous voyez, une hyperbole, c'est toujours de la géométrie, vous voyez, c'est un truc comme ça. Bon, ben, vous voyez bien que c'est une ellipse qu'on a coupée en deux, puis on a mis les points qui sont ici, on les a mis à l'infini. Les points qui sont là, ils sont à l'infini. Alors là, quand il me demandait comment on passe de l'ellipse à l'hyperbole, ça, il avait raté quoi? Il avait raté la parabole, parce qu'entre les deux, il y a la parabole. La parabole, c'est pas les deux points qui sont là, qui sont balancés à l'infini, c'est le point qui est ici. Lui, hop, il va à l'infini. Vous voyez? La parabole, c'est une ellipse aussi, mais c'est une ellipse dont un des sommets du grand axe est envoyé à l'infini. Bon. Tout ça, c'est les coniques grecques. Et là, quand je lui montre la parabole, il me dit « Ah, comment mon intuition a-t-elle pu me tromper ?» Alors, ça m'a fait rire parce que je connaissais la phrase de Poincaré. C'est-à-dire que Lacan, c'était le genre de joke qu'il aimait bien faire. Il aimait bien faire des plaisanteries comme ça. Et en général, ça faisait marrer personne. Moi, ça m'a fait marrer. Bon, c'est très amusant, cette idée quand même, qui est tout à fait formidable. C'est qu'effectivement, je pense que c'est du même ordre de ce que dit Freud quand il parle de la construction en analyse. Et il dit, quand le patient nous dit « Mais comment n'y ai-je pas pensé plus tôt ?» Ce qu'on vient de vous découvrir là, c'est « Mais bien sûr, je le sais depuis toujours, comment je n'y ai pas pensé plus tôt ?» Et en général, dans l'analyse, c'est des choses qui sont extrêmement évidentes, qui sont pas... c'est pas des paraboles, c'est quelque chose qui est... que le sujet sait, il le sait, mais il le sait tellement, c'est dans l'évidence, c'est dans le vide, dans l'évidence, vous avez dit, c'est évident. Et c'est tellement évident qu'il faut l'analyse, il faut la circonstance de la stratégie analytique avec le transfert pour faire cet effet dans le transfert de loupe, de grossissement du symptôme qui va rendre nécessaire la lecture du fantasme comme étant quelque chose qui est effectivement qui a sa raison et qui donne raison des symptômes. Les symptômes sont justement des intuitions mal foutues, mal écrites. Bon. Alors, nous sommes en présence de cette histoire de l'écriture et le corps écrit. Le corps, il a attrapé, il est parasité par la parole et il écrit. Et il écrit de travers, il écrit pas bien. Et il y a une bonne écriture de ça. Et donc, la psychanalyse, elle nous conduit quoi ? Ben, à nous interroger sur les moyens d'écriture et puis s'apercevoir qu'on peut même pas, que l'on ne peut même pas se contenter des alphabets. Donc certainement, ça, c'est sûr qu'il y a un logocentrisme de l'écriture alphabétique. Mais que même l'écriture hiéroglyphique, l'écriture chinoise, là, quand on dit, c'est des caractères, c'est pas des idéogrammes. On dit des idéogrammes, on dit des caractères, c'est tout ça, c'est parce que c'est exotique et qu'on voudrait. Il y a un logocentrisme de l'alphabet, mais l'écriture et la lecture, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'on peut lire des caractères. L'écriture, même l'écriture poétique chinoise dont François Cheng avait fait un livre au Seuil, peut-être que vous connaissez, et la réflexion de François Cheng sur l'écriture chinoise, l'écriture poétique et la peinture chinoise, bien sûr, vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la représentation. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui fait la différence entre représentation et écriture ? C'est cette notion de lisibilité. Qu'est-ce que c'est que lire ? Alors, bien sûr, on peut faire des métaphores qui sont des analogies. On a fait lire un film, vous voyez, d'ailleurs, Metz s'était essayé au structuralisme au cinéma. Bon, on peut gesticuler avec le signifiant, le signifié, puis faire un livre structuraliste sur le cinéma, mais lire, qu'est-ce que c'est que lire ? Peut-être qu'on peut lire les films, mais il faudrait préciser qu'est-ce que c'est que cet acte de lecture. Hein. Et la lecture, ça suppose justement. L'expérience que vous pouvez en avoir, justement, c'est quoi ? Même si vous lisez de la littérature, vous voyez bien que si le livre que vous lisez vous dit quelque chose, comme on dit, s'il y a des fenêtres qui s'ouvrent, ça vous cause et vous lisez. Mais il faut qu'elles se referment tout de suite. Parce que si elles vous causent trop, les fenêtres, si vous lisez et que ça vous donne des idées, et que tout à coup vous vous mettez à ne pas pouvoir refermer la fenêtre parce que ça vous induit à penser, ce qui peut être tout à fait légitime, et ben vous laissez le livre et vous continuez à réfléchir. Et justement, si en mathématiques on est obligé de faire ça, on se met même à écrire des trucs pour revenir au livre. On peut le faire avec des essais dans différentes disciplines, ça dépend du style. Il y a toute la gamme des styles qui vont du poème à la littérature, à la philosophie, à l'histoire, à la géographie, à l'économie. Vous voyez, vous passez ensuite, vous allez avoir la chimie, la géologie, la physique, et puis les mathématiques au bout. Tout ça, c'est de l'écriture, c'est de la lecture, c'est du langage, c'est pas de la représentation. Et cette gamme de l'écriture, il n'y a aucune raison de ne pas considérer que c'est de l'écriture. Alors maintenant, ça rappelle un peu cette espèce de pétition structuraliste sur tout est langage, ou c'est du langage. Bon. Mais il y a des structures là-dedans, dans ces structures de langage. Il y en a une en particulier, c'est justement cette ouverture-fermeture permanente dont je vous ai montré que moi, je la mettais sur un graphe qui est un graphe comme ceci. Vous voyez ? Avec ici, par exemple, S1 flèche S2, c'est ça. Et c'est au-dessus de la barre saussurienne. Vous voyez, ça, c'est le grand S. Et le petit S, moi, je le fais tomber en bas. Et là, vous avez le ruissellement, le ravinement et le ravissement. Ça, c'est l'itérateur de la fin. Et là, vous avez S1 flèche S1. Non, attendez, Lacan, il n'écrit pas comme ça, il écrit comme ça. S1 flèche S2. Voilà. Vous avez la métonymie ici qui est histoire. Vous voyez, ici, c'est dans la structure. Je vous dis que Lacan commence à mettre en place cette structure explicitement à partir de position de l'inconscient, c'est-à-dire en 64. Structure et histoire. Et histoire, je pourrais l'écrire avec un Y. Vous voyez ? C'est l'historicité. Ici, c'est le développement métonymique. Ici, c'est la structure dont il faut prendre compte de la répétition freudienne pour pouvoir parler de la métaphore autrement comme une analogie. La métaphore n'est pas une analogie, c'est pas réductible à une métonymie. Il y en a peut-être beaucoup qui sont des métaphores faibles, Mais pour avoir une idée justement de la lisibilité et de la métaphore et du problème que pose cette lisibilité dans la structure, vous voyez bien qu'il faut prendre par exemple pas seulement les métaphores poétiques, mais il faut prendre les insultes. L'exemple que je prends en général, qui est assez antipathique pour les dames, c'est de dire que vous voyez ce que c'est qu'un trumeau. Un trumeau, c'est cette partie de l'architecture qui se trouve entre deux fenêtres. Ça s'appelle un trumeau. Et dire d'une femme qui n'est pas très séduisante, pas très belle, pas très marrante, enfin pour X ou Y raison de dire d'une dame que c'est un trumeau, et ben ça fait tout de suite des gens qui trouvent ça, qui comprennent tout de suite. Ça veut dire que c'est quelqu'un, bon, c'est désobligeant. Bon. Et bien vous voyez, il n'y a aucune raison de comparer, sous aucun aspect, vous pourrez trouver une analogie qui pourra justifier. Vous voyez bien que c'est le son trumeau qui a quelque chose du côté du signifiant. Déjà, c'est pas beau, trumeau, c'est même pas parce que ça peut consonner avec truie, dont parle Lacan dans son analyse de Schreber, là, au début, dans la question préliminaire, au traitement possible des psychoses. Les deux femmes, là, la mère et la fille, qui ont des hallucinations et qui entendent charcutier. Je viens de chez le charcutier, j'entends le mot truie. Bon. Il y a quelque chose du côté des oreilles, il y a quelque chose du côté du son, et il y a quelque chose du côté de la lettre. Et dans le signifiant, voyez-vous, ici il s'agit du signifiant.